Les rencontres d'Edmond Morel. Daniel Blanpin, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de la 6e édition du dictionnaire qui dorénavant s'appelle le Hans Blanpin. Alors, commençons peut-être par évoquer l'histoire de ce dictionnaire dont la première édition date de 1983 et là elle était signée du seul Joseph Hans. Alors, qui était Joseph Hans pour ceux qui n'ont pas eu comme vous le bonheur de le connaître ?
Joseph Hans était professeur d'université, professeur de langue française. Il travaillait à l'université de Louvain et il avait déjà donné un premier essai, un premier ouvrage de définition des difficultés en 49. Puis est venu 83 où il a repris toute la matière. Quelques années plus tard, une deuxième édition. Hans nous a quittés en 1992 et moi j'ai repris la succession en 93. Donc moi j'en suis à la troisième édition de ma succession. Joseph Hans était un personnage bien connu parce que il avait une relation privilégiée au lexique. Sa grande spécialité, c'était le Till Eulenspiegel de Coster. Et donc, ce foisonnement lexical, il l'adorait, mais il adorait surtout prendre en main les difficultés que se posaient les étudiants, que se posaient les lecteurs courants, et il avait un ton particulier qui était celui de la convivialité. C'est expliquer les choses simplement et ne pas aller vers la littérature pour en trouver des exemples prescriptifs. J'ai rencontré Hans avant ma participation au Conseil supérieur de la langue et là, nous avons échanger nos points de vue. Et il se fait que j'enseignais la langue française dans un cours de linguistique française ici à Bruxelles, à l'Institut supérieur des traducteurs et interprètes, mais que je m'étais aussi spécialisé dans l'enseignement du français aux étudiants étrangers qui, par le système Erasmus, nous arrivaient. Et donc, nous formulions, Hans et moi, des explications de difficultés qui étaient automatiquement testées. Lui, il l'avait fait sur les étudiants néerlandophones et moi, je le faisais sur les étudiants appartenant à de multiples nationalités. Si bien que tout ce qui est formulé dans ce dictionnaire l'est fait simplement et surtout sur une base expérimentale. Tout a été éprouvé. Et c'est pour ça que quand on ouvre le dictionnaire, certains vous disent « Mais on ne parvient plus à le fermer parce que ça se lit avec le plaisir d'un roman. » Et c'est pour ça que la devise que j'ai adoptée est le plaisir de maîtriser la langue française.
Oui, voilà, c'est une belle expression, c'est aussi une belle définition de ce que le lecteur, même s'il n'est pas spécialisé en matière de lexicologie, de français ou de linguistique, peut trouver à lire le livre. Vous avez utilisé un mot important qui est le mot non prescriptif. Je crois que c'est aussi une des clés de la forme de ce dictionnaire, c'est qu'il ne prescrit rien, il admet que des divergences existent entre la règle et l'usage.
Oui, c'est-à-dire que les usages sont placés au premier plan. Tout mot, toute phrase se situe par rapport à un contexte qui est un contexte historique, un contexte social et avec des fonctions diverses. Ce qui signifie que l'on explique toute difficulté par rapport à d'autres difficultés. Si c'est une difficulté orthographique, vous expliquez que jogger prend 2 G-E-U-R ne suffit pas. Je vous explique pourquoi jogger 2 G-E-U-R par rapport à tagger qui est G-U-E-U-R. Toute difficulté est rattachée à une autre difficulté. C'est pour ça que dans la version iPad, vous avez à peu près 20 000 liens hyperliens qui sont mis en circulation et que vous avez là dans cette version iPad, au lieu des 5 000 entrées du dictionnaire imprimé, vous avez 11 000 entrées.
On reviendra à la version iPad, iPad par la suite. Mais j'aimerais peut-être que vous développiez un peu quelles sont les variantes et de quelle manière vous les avez perçues depuis 1992, c'est-à-dire 20 ans, notamment dans le domaine des variantes sociales, géographiques et historiques. Alors on va procéder par catégorie. Les variantes sociales, est-ce qu'on peut voir depuis 20 ans des variantes de la société francophone et qui se reflète dans les variantes de la langue française?
Oui, il y a une question de registre. Je dis souvent, mais avec un certain sourire aux lèvres, quand je proposais l'exemple de Marcel Proust, parce que c'est rentré dans la langue assez connue, qui est « faire catléa », par référence à la recherche du temps perdu, pour faire l'amour. Ce n'est pas en 93 que j'ai inclus le verbe niquer. Aujourd'hui, il y a cette variante qui s'est installée et qui montre bien que nous allons du registre le plus cultivé au registre le plus argotique. Mais ce que nous constatons, c'est une évolution des choses. Par exemple, une évolution qui est liée à la spécialisation des domaines. Et donc, il m'intéresse aujourd'hui d'expliquer aux gens que lorsqu'un glacier laisse tomber un grand pan de lui-même, on appelle ça un vêlage. Le glacier vêle comme la vache vêle d'un veau. La bédière qui circule dans le glacier. Ce sont des termes liés au réchauffement climatique. Donc, vous voyez, ça, je l'enregistre. Mais des faits sociaux majeurs, je vous mets au défi de trouver dans un dictionnaire la transcription de porte-à-quatre, ce cathéter central veineux que les gens atteints d'un cancer reçoivent pour favoriser la chimiothérapie avec une intrusion immédiate dans le corps du patient. Et nulle part il n'est écrit. Vous ne le trouvez que dans des écrits spécialisés. Donc, ça c'est une évolution des choses. Mais j'ai aussi des mots anglais qui viennent du langage de la communication, le wording, le pitch, le buzz, qui sont des mots nés aujourd'hui ou nés hier, mais qui ont leur importance et qui vont connaître une aventure. Je me rappelle, en 2000, j'ai fait rentrer le mot « entarté ». Bravo Noël Godin, le mot « entarté » n'existait dans aucun dictionnaire. Nos amis français avaient « entartré ». Donc on disait « Bernard-Henri Lévy s'est fait entartré pour la huitième fois ».« Entarté » est rentré dans mon dictionnaire, il a été adopté par le petit Robert quelques années plus tard. Donc, il y a des mouvements qui reflète socialement et géographiquement les développements qui sont les développements de la langue dans son vocabulaire. Je pense à un mot que j'adore et qui est, vous qui connaissez les plages, vous savez ces ondulations qui se créent après le passage de la mer, que l'on appelle des ripple marks, une ripple mark. Eh bien, les dictionnaires se bornent à ça. Parfois, ils tentent le mot « ridule ». Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la baie de Somme, en Normandie, ce mouvement du sable s'appelle un « ridin ». Et donc, je le propose, et je suis sûr que le mot « ridin » est promis à un succès que les lexicographes français ne veulent pas encore reconnaître. Donc, par rapport au temps, nous sommes parfois en avance, mais nous expliquons aussi des mots par rapport à leur histoire. Le mot vernissage, les gens ne savent plus ce que veut dire le mot vernissage. Eh bien, ça désignait tout simplement l'autorisation qu'avaient les peintres lors du jour précédant la venue du public, ils avaient l'autorisation encore de vernir leur toile. Le vernissage. Et donc, par rapport à ça, je joue sur le temps, Je joue sur l'espace, les ridins, vous voyez, ou alors avec des particularités qui sont bien de chez nous. Il y a des régionalismes qui sont aussi bien du Québec que d'ici. Et je vois apparaître maintenant, sur certains petits paquets, un régionalisme auquel j'avais donné un certain écho, qui est le mot « débarbouillette ». Débarbouillette apparaît sur certains petits paquets. C'est nos habits québécois qui avaient ce charmant mot pour désigner un gant de toilette. Voilà.
Oui, alors là, on a abordé en fait les différents types de variantes, la géographie, les régionalismes. Au niveau de l'histoire, j'aimerais que vous évoquiez les niveaux de langue, parce que vous ne citez pas nécessairement des phrases ou des extraits de textes littéraires, mais vous proposez aussi de mettre dans le contexte du langage courant certaines des difficultés que vous identifiez ou que vous expliquez. Alors comment travaille Daniel Blanpin au moment où il se dit « là, je dois inventer une phrase pour faire illustrer ce que je suis en train d'expliquer. »
Tout est d'abord acté, c'est-à-dire j'entends. J'entends, je note, et ensuite, les exemples qui sont proposés sont parfois ce que j'ai entendu, mais souvent une mise en musique du cas où j'invente des exemples pour mieux faire comprendre, pour cerner l'ensemble de la difficulté. Vous savez, quand on rentre sur un mot simple, comme le mot cerise, vous avez la tarte aux cerises, la confiture de cerise, mais vous avez une robe cerise, des robes cerises. Donc, il ne s'agit pas simplement de voir le cas du mot cerise, faut-il un S ou pas, il faut le situer dans une série d'exemples qui rejoignent l'expérience commune. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la différence par rapport au bon usage qui, conformément à Vaugelas, va rechercher tout un capital littéraire, moi, la phrase donnée, extraite de l'auteur, est une phrase qui vient parmi les différents registres de langue. Avec un auteur, je suis souvent en registre soutenu, et c'est pour ça que bon, j'ai du Dormesson, j'ai du Nathalie Sarraute, j'ai du Boris Vian, etc. Mais, à la différence du bon usage, mon exemple littéraire n'est pas prescripteur. Mon exemple littéraire est une facette parmi de multiples facettes. Donc, c'est la langue telle qu'elle se parle, et expliquer à tous ceux qui sont curieux de leur langue, et surtout à ceux qui se trouvent dans une démarche d'analyse importante, qui consiste à comparer les différentes occurrences parmi lesquelles ils doivent choisir, dans une perspective de traduction, de formulation. Et c'est pour ça que ça sert aussi bien des parents que des étudiants. On me dit que dans les centres français d'apprentissage du français, on utilise le dictionnaire parce qu'il permet d'aller vite vers le problème, qu'il s'agisse de l'accord du participe passé, qu'il s'agisse des pluriels exceptionnels, etc. Mais ce qui me permet de voir le problème, c'est quand une maman arrive chez moi, elle me dit « vous ne savez pas, mon fils, en cinquième année primaire, doit écrire 103 avec un trait d'union. » Alors, je dis « mais nous allons vérifier si cet outil peut vous être utile. » Elle va voir 100. Elle voit qu'effectivement, on peut écrire 103 sans trait d'union, mais juste en dessous, il est indiqué que la réforme de l'orthographe, les rectifications de l'orthographe depuis 1990, qui ont été en Belgique actualisées en 2008, c'est-à-dire installées par la ministre en 2008, permettent, pour des raisons de facilité, d'installer le trait d'union entre 300 et entre 100 et 3. Et voilà, elle a compris tout le problème par l'utilisation de mon dictionnaire. Donc, je vous disais, un public large, mais qui est préoccupé d'avoir une solution au problème immédiat qu'il rencontre. Mais quand il a sa solution, il voit, et c'est pour ça qu'il y a un aspect ludique très développé dans l'iPad, il voit que cette solution est peut-être connectée à une autre approche des choses. Et donc, on va voir vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en général, quand on ouvre ce dictionnaire, on ne parvient pas à le fermer.
Alors, il y a un autre aspect, avant d'arriver à l'iPad, parce que je n'oublie pas qu'on va, parler de l'iPad, qui est la nouveauté 2012, de cette édition 2012. On a souvent dit qu'une langue vivante doit se nourrir d'autres langues avec lesquelles elle est en contact. Et pour le français, notamment les Québécois évoquent les anglicismes. Est-ce que depuis 20 ans, avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'utilisation d'une écriture courte pour les SMS, d'une écriture moins informel pour les emails, est-ce que vous avez le sentiment que la langue française a pris une modification accélérée par rapport à son évolution avant que n'apparaissent toutes ces nouvelles technologies? Est-ce que les modifications, est-ce que la vie de la langue française s'est modifiée plus rapidement?
Vous parlez des SMS, des textos, disent nos amis français. Eh bien, quand vous regardez ce capital d'échange en 160 caractères, vous pouvez vous dire qu'on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. On écrit, on écrit, on écrit. Alors, est-ce que ça a une influence sur la langue française? Je crois que les formulations jeunes d'aujourd'hui ne vont pas vers des phrases alambiquées, aux circonvolutions, mais elles vont dans le sens de l'efficacité, du pragmatique. Et je constate qu'ils ont un souci de dire les choses clairement, précisément, pour ne pas utiliser trop de caractères, me direz-vous, mais c'est surtout quand ils transposent la démarche. Quand ils doivent écrire autrement, il y a ce souci de précision qui est né de ce langage corseté, mais libéré en même temps, qu'est le SMS ou le texto. Et vous savez, on a dit à un moment, les jeunes lisent moins. C'est vrai, les statistiques sont là pour le montrer, ils lisent moins, mais moi je crois que ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'ils n'ont plus une lecture linéaire. Ils ont une lecture tabulaire. Et donc, ils lisent des écrans, ils lisent des morceaux, ils agissent sur des morceaux de texte, les fameux copier-coller dont certains professeurs se plaignent, mais ils agissent par rapport à des blocs textuels. C'est toute une autre approche de la langue. Mais ça ne signifie pas que la curiosité de leur langue est diminuée par... pour autant.
Alors, on va en venir à la nouveauté 2012 du dictionnaire des difficultés du français. C'est la version iPad. C'est la possibilité de télécharger une application qui accentue, je dirais, le plaisir de la découverte de ces difficultés qui, finalement, peuvent se transformer quasi en un jeu où la curiosité est piquée à chaque instant, notamment par la présentation de l'ensemble. Alors, décrivez-nous un peu comment vous avez construit le squelette de cette application iPad.
Mais, c'est-à-dire que le squelette est conçu sur deux faces. La première face, c'est vous entrez un mot, et automatiquement, vous avez une réponse par rapport au mot avec une assistance qui fait que, en tapant deux lettres, vous avez tout de suite le mot que vous cherchez, et vous avez toute une succession de mots ou de problèmes syntaxiques ou autres qui sont énumérés sur votre écran. Vous touchez l'endroit, vous avez l'information complète, mais toute information rebondit. Dans le bas de votre écran, vous avez un système d'engrenage qui vous dit il y a quatre fiches ou quatre informations qui peuvent venir compléter ce que vous cherchez. Vous pouvez y aller, vous avez ces informations. Vous pouvez aussi sélectionner vos informations et en faire vos favoris. Vous constituez votre propre dictionnaire après avoir fait votre recherche. Mais surtout, en multipliant les liens comme nous l'avons fait, en multipliant les entrées, en fragmentant et en mettant en relation, chose que l'imprimé ne fait pas toujours. Bon, un problème vous renvoie à la réforme de l'orthographe en moins de deux, un autre problème vous renvoie à la conjugaison, tout ça s'affiche instantanément, mais surtout vous avez une recherche conceptuelle. La recherche conceptuelle, c'est, je ne sais pas moi, la petite pointe qui se trouve dans votre ceinture et qui vous permet de caler votre ceinture, comment se l'appelle cette petite pointe? Ben, je tape ceinture, automatiquement je trouve que cette petite pointe s'appelle ardillon, c'est-à-dire conceptuellement. Si vous allez dans une exposition et que vous êtes mécontent de ces écriteaux qui sont en dessous des tableaux et que vous ne pouvez pas lire, bah, automatiquement, vous tapez écriteau, écriteau, tableau, bah, vous voyez que c'est un cartel. C'est un mot de tous les jours pourtant, hein. On se plaint beaucoup des cartels. Mais alors vous avez aussi le mot d'humour. Vous avez vu le mot anacolute. Anacolute, ça signifie rupture de construction. Oui, bien sûr, c'est un mot un peu savant. Mais vous voyez dans le petit article qui lui est réservé, vous voyez anacolute, une des injures préférées du capitaine Haddock, qui prend un autre sens. Hein. Maintenant, la deuxième face, c'est que tout est arborescent. Vous rentrez dans le mot, vous allez jusqu'à la suffixation du mot en passant par toutes les étapes concernant la forme, le sens. Vous choisissez comme à l'intérieur d'un système conceptuel l'aspect vers lequel vous allez, avec cette particularité extraordinaire. Moi, un dictionnaire des difficultés, c'est un choix. Donc, si je vais sur la notion de genre, féminin exceptionnel, je vais avoir la liste complète des féminins exceptionnels que j'ai traités, sans aucun scrupule sur le fait, ça y est pas. Non, le dictionnaire vous précise en version électronique, absent du dictionnaire quand vous ne l'avez pas. Il ne faut pas le chercher, il n'est pas dedans. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez au bout, vous pouvez voir votre langue française dans l'énumération de tous les problèmes que pose le féminin dans la langue française. Chose qui est unique par rapport aux grammaires, par rapport aux dictionnaires existants. Donc, en 2000, nous avons été les premiers à mettre un dictionnaire des difficultés sur CD-ROM. Ici, nous sommes les premiers à mettre un dictionnaire de difficultés sous la forme iPad et à, j'espère, donner satisfaction au lecteur qui aura le plaisir de maîtriser sa langue autrement.
Il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, qui est l'élément de, d'une des fonctions, où de manière aléatoire, des mots apparaissent sur l'écran, et puis on clique et on tombe par hasard sur des mots qu'on ne cherche pas nécessairement. Mais je trouve que ça fait partie aussi d'une forme de jeu ou de passe-temps auquel on peut se livrer, plutôt que de faire un sudoku ou de faire...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes dans le train, vous voulez vous amuser sur les difficultés de la langue, vous avez un déferlement de l'ensemble des difficultés, puis pop, ça s'arrête. Vous touchez celle qui vous intéresse, automatiquement vous êtes reporté à l'intérieur du dictionnaire. Ça vient d'une remarque d'un de vos confrères qui un jour m'a dit, quand on ouvre le dictionnaire, on ne parvient plus à le fermer. Et donc, nous jouons, nous accroissons l'aspect ludique avec cette sphère de curiosité qui permet à tout un chacun de tester au hasard ses connaissances. Parce que bon, une difficulté n'est pas une autre, mais comment on va, si vous prenez, je ne sais pas moi, la difficulté abasourdir, hein, l'actualité nous a montré que les avocats corses, l'avocat corse qui a été assassiné, c'était une nouvelle qui abasourdit, disaient les Français, ou la fermeture de gang, une nouvelle qui abasourdit. Mais non, vous allez voir abasourdir, parce que ça vient du verbe basourdir, qui signifiait tuer, qui était confondu avec sourd. Donc, il y a moyen de s'en sortir, non pas en étant puriste, mais en disant, ah, cette langue française, elle est quand même bien faite pour distiller du plaisir.
Alors, Daniel Blanpin, pour terminer cet entretien, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous êtes dans un endroit où l'on parle autour de vous, de ne plus écouter en vous disant « je ne peux pas alimenter en permanence un dictionnaire qui serait ma façon de vivre ?» Et ma deuxième question, et vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez répondre, pourquoi les Belges sont-ils aussi spécialisés dans la langue française qui, d'une certaine manière, leur appartient peut-être moins qu'aux Français ?
Écoutez, quand j'entends, je ne puis m'abstraire de ma fonction. Et ça veut dire que j'entends avec une certaine oreille, un peu comme un médecin entend son patient, et ça m'amuse. Donc je note sans arrêt ce que j'entends, et bon, par rapport à mes petits-enfants, comme par rapport à l'environnement immédiat, comme par rapport à l'environnement le plus savant, ce qui se dit m'intéresse au premier plan. Bon, parce que c'est la langue sans complexe, telle qu'elle est dite, telle qu'elle cherche sa formulation la plus précise. Alors, la deuxième question, je crois que les Français, nos amis français, font le complexe de supériorité par rapport à leur langue, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne l'ont pas sauvé à l'échelle internationale, mais il y a surtout le sentiment « ça va de soi ». C'est une évidence que nous connaissons notre langue. D'ailleurs, vous savez qu'ils n'ont pas voulu au départ être cités dans les pays de la francophonie. Les francophones sont les autres, nous, nous sommes les Français. Et donc, je dis que pour nous, ça ne va pas de soi. D'abord parce qu'on est dans des régions multilingues. Ça ne va pas de soi. Et donc, nous avons une position privilégiée d'observateur. Et nous nous interrogeons, et quand nos amis français ouvrent ce genre de dictionnaire des difficultés, ils sont étonnés des pans de leur ignorance. Parce que, ah, je croyais que, eh bien non. Voilà, et ça c'est un autre plaisir.
Daniel Blanpin, merci pour cet entretien et puis pour cette sixième édition du Dictionnaire des difficultés du français qui existe, je le rappelle, en deux versions, la version papier, la version livre, dictionnaire chez The Book et la version application iPad qui ajoute au plaisir de la lecture, l'amusement de pouvoir s'instruire, s'informer, sans vraiment le chercher, sans vraiment le vouloir, comme dirait Monsieur Jourdain. Merci Daniel Blanpin et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à se précipiter, soit dans la version papier, soit à s'amuser avec la version iPad. Merci Daniel Blanpin.
Merci Monsieur Jourdain.
Les rencontres d'Edmond Morel.